France Inter. Le 7-9.
Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est journaliste.
Bonjour Camille Emmanuel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin alors que s'ouvre aujourd'hui le procès historique des attentats du 13 novembre 2015. On va s'intéresser avec vous aux grands oubliés des attentats terroristes, les ricochets. Ricochets, c'est le titre de votre livre qui sort chez Grasset. Les ricochets, c'est vous Camille Emmanuel. C'est vous, c'est la femme de la victime, ou son mari, ou son frère, ou son père, ou sa mère. Vous racontez ce que c'est d'être celui qui souffre avec, qui souffre à côté de la victime directe d'un attentat. Vous êtes la femme de Luz, le dessinateur de Charlie Hebdo, qui échappera à la mort grâce aux quelques minutes de retard qu'il aura eu ce matin-là pour arriver à la conférence de rédaction. La première fois que vous entendez le terme ricochet, c'est quelques heures après l'attentat contre Charlie Hebdo. Vous accompagnez Luz, traumatisé à l'hôpital. Il raconte à la psy les détails de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu, de ses amis massacrés. Et à la fin, la psy se tourne vers vous et vous dit « Et vous, madame, comment allez-vous » Et là, vous comprenez pas pourquoi elle vous pose la question à vous, c'est pas vous la victime.
Oui, je comprenais pas cette question parce que j'étais la plus un, en fait, dans l'histoire. J'accompagnais juste mon compagnon, en fait, dans cette épreuve. Et le fait qu'elle se tourne vers moi et qu'elle me pose cette question, je trouvais ça limite indécent, en plus, en disant « Bah attendez, il y a une victime directe, là, qui est traumatisée. Moi, ça va. Je ne fais que l'accompagner. » Et en fait, elle m'a dit « Oui, mais vous êtes... vous allez soutenir, dans l'avenir, votre mari. Donc, vous êtes une victime par ricochet. » Et je me souviens avoir entendu ce mot-là et me dire, un, je suis pas victime. Deux, ricocher, c'est plutôt joli. Donc, je comprenais pas, en fait, l'expression. Et c'est, je dirais, des années plus tard, après avoir vu tout ce parcours d'accompagnement et comment ça avait complètement répercuté et bouleversé toute ma vie également, que j'ai voulu creuser, en fait, cette histoire de victime par ricochet.
Et vous avez creusé dans ce livre, avec votre expérience et celle d'autres que vous avez interviewées, en quelques heures, la vie de votre mari va basculer, la vôtre aussi. Vous avez donc ce nouveau rôle, soutenir, consoler, écouter, répondre, prévoir, organiser, faire barrage. Or, écrivez-vous, il n'y a pas de manuel parfait, il n'y a pas de manuel de parfait soutien aux personnes blessées psychiquement lors d'un événement traumatique. Et d'ailleurs, ça concerne pas seulement les attentats, ça peut être les parents d'une fille qui a été violée, ce sont des ricochets, ça peut être les enfants dont le père tape la mère, c'est un ricochet. Et face à cela, vous dites, on est un peu perdu.
Ouais, tout à fait. Moi, ma première réaction quand je ne comprends pas quelque chose ou qu'il y a une situation dans laquelle je souffre, je vais en librairie. Ou bien, comme je suis journaliste, je tends le micro, en fait, pour interroger des gens. Et je suis allée en librairie et j'ai rien trouvé. Je trouvais des choses sur la résilience en général. Je trouvais des choses, par exemple, sur le deuil. Mais moi, j'ai pas traversé de deuil, en fait. Je traversais autre chose. Je traversais le fait d'avoir peur pour l'autre, d'être inquiet pour l'autre, inquiète, en l'occurrence. Et de devoir, en fait, prendre sur soi aussi les proches qui vont demander toujours comment va l'autre, enfin tout cet environnement. Et en fait, je trouvais pas d'éléments, donc je me suis dit, moi je vais faire une enquête où je vais aller voir des personnes, d'autres proches de rescapés, des psys, des avocats, et puis je vais être mon propre terrain, c'est-à-dire mon cerveau est devenu aussi mon propre terrain d'enquête.
Ouais, et vous racontez, alors il y a plusieurs scènes, je vais les raconter. D'abord, le dernier geste que vous faites avant d'entrer dans ce rôle de ricochet, c'est le matin quand Luz vous envoie un SMS pour vous dire ils sont tous massacrés, il y a du sang partout, il vient d'arriver à la conférence de rédaction, c'est un carnage. Vous décidez évidemment d'aller le retrouver tout de suite. Vous vous levez, vous prenez une douche. Déjà, ça vous étonne a posteriori d'où on a le temps. Et puis alors, vous mettez du rouge à lèvres. Vous écrivez qui est assez conne, assez superficielle dans la vraie vie pour passer ne serait-ce que 2 secondes pour mettre du rouge à lèvres à ce moment-là quand ton mari t'envoie un carnage. Pourquoi ce geste ?
C'est un geste que j'ai vraiment analysé dans mon livre, qui peut paraître complètement anodin. L'idée, c'est pas de m'auto-flageller, mais c'est de me dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête, dans mon cerveau. Et je pense qu'il y avait un sentiment d'irréalité, une intrusion. Et d'ailleurs, l'attentat, je pense, pour énormément de Français, énormément de personnes dans le monde, il y a un truc genre « ce n'est pas possible » ou « c'est un film », etc. Et moi, dans ce film-là, qui était la vraie vie, j'imaginais pas que ce soit possible. Donc je me suis dit, mais je me suis vraiment dit, ils doivent être au café d'en bas et ils doivent avoir besoin de parler, là, de se confier, donc je vais les retrouver. Et vu que c'était un geste quotidien que je faisais tous les matins, je l'ai fait ce matin-là. Mais c'est vrai qu'avec du recul, il y a ce sentiment de se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis, avec quelque chose aussi de très prosaïque qui se mélange avec quelque chose de tragique.
Après les attentats, vous allez vivre à la campagne, un exil qui lui fait du bien à lui, à Luz, il se reconstruit, mais vous, vous étouffez. Vous le dites, c'est ce qui est courageux. Vous dites « j'étouffe entre mon mari et ma fille, l'isolement vous pèse, Paris vous manque ». Sauf que vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous n'avez pas le droit de souffrir. Le ricochet n'a pas le droit de souffrir, il n'a pas le droit de s'épancher. Le ricochet n'a pas le droit de l'ouvrir parce que ce n'est pas lui la victime.
Bah, exactement, et ça pour le coup, ça concerne tous les ricochets en fait, et pas seulement des attentats. On ne demande pas à la personne voilà, qui soutient son mari qui a un cancer, comment tu vas. On demande d'abord voilà, à la victime, ce qui est tout à fait normal, c'est une question de priorité. Mais il peut y avoir quand même voilà, un sentiment de solitude, des peurs, des pensées intrusives. Et ça, il n'y a pas trop d'espace de parole là-dessus. Ce sentiment d'étouffement, en fait, en plus, il était culpabilisant, puisque ce qui sauvait et ce qui faisait du bien à mon mari, moi, me portait préjudice. En l'occurrence, le fait d'être éloigné de tout le monde. Lui, il a quitté le journal, il a eu besoin voilà, de s'isoler. Et moi, je suis journaliste, j'ai un métier, j'ai des amis, et il y avait ce truc genre... Je vais culpabiliser parce que ce qui lui fait du bien, moi, me fait du mal, alors que ça devrait me faire du bien.
Vous racontez notamment l'histoire de Simon et Maisie. Simon, c'est le webmaster de Charlie Hebdo qui va être très grièvement blessé. Sa petite amie va le soutenir. Elle va être forte. Elle va être très forte. Elle va être tellement forte. Elle va tellement s'oublier qu'elle ne va pas voir qu'il y a un kyste, qu'elle a un kyste ovarien énorme qui grossit.
4 kilos.
Elle va pas voir le médecin parce que c'est pas elle la vraie victime.
Tout à fait. Et c'est normal pour elle d'avoir mal. Enfin, elle est face à quelqu'un qui a tellement des douleurs chroniques intense, mais vraiment intense, c'est le cas de Simon, que elle, le fait qu'elle soit obligée de dormir par terre sur le sol, ça devient limite normal, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un oubli de soi, qui est un risque, en fait, pour les proches de victimes, à pas écouter leur corps, à pas écouter leur psyché, à pas être écouté aussi. Et là, pour le coup, pour Maisie, c'était flagrant parce que son mari a été touché physiquement et elle, l'impact en tant que ricochet, ça l'a touché aussi physiquement.
Après les attentats, vous tombez enceinte, vous racontez les policiers qui vous accompagnent à la première échographie, rentrent dans la salle avec vous, vous dites à la secrétaire du cabinet médical, c'est là que vous êtes très drôle, parce qu'il y a plein de moments où vous êtes drôle, je savais pas qui était le père, du coup on est venu à quatre. Vous racontez aussi les conséquences plus anodines, je dirais, mais qui bouleversent quand même une vie, les pimpons, la phobie des pimpons, les sirènes, dès que vous entendez une sirène, c'est plus possible, vous rentrez dans un état d'angoisse. Les films que vous ne pouvez plus voir, c'est-à-dire tous ceux qui ont des armes ou des scènes de violence, ça c'est terminé. Les relations sexuelles aussi, dont vous laissez entendre, puisque vous êtes une journaliste qui écrivait sur le sexe, vous laissez entendre qu'elles s'abîment aussi dans ces situations-là.
Je ne sais pas si elles s'abîment, mais en tout cas, elles sont transformées. J'avais l'impression, et d'ailleurs la première année, j'avais écrit un texte là-dessus, un petit peu grandiloquent, j'avais appelé ça « Eros contre Thanatos », enfin voilà, j'assume plus beaucoup en fait, cette partie aujourd'hui, puisqu'il y avait quelque chose de voilà, la vie contre la mort, etc., la pulsion de vie contre tout ce drame autour de nous. Des années plus tard, en fait, j'écrirai plus « Eros contre Thanatos », puisqu'en fait, tout est touché. La psychologie est touchée et même le fait de vivre... Enfin, je me rends compte que le désir au départ, c'était aussi le désir par rapport au fait qu'il soit rescapé. Et j'avais besoin en fait de le toucher, de tout ça, en me disant voilà, il est vivant, il est là. Et en fait, ce désir-là, il est pas, je dirais, normal. Et puis, il peut être aussi... Il va être bouleversé en fait par la vie quotidienne. Donc, je trouvais ça important de dire... On demande souvent en fait aux victimes ou aux proches des victimes, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu nourris bien? Comment ça se passe ta vie quotidienne? On pose peu la question de la vie intime, comment ça se passe ton désir, alors que ça fait partie en fait des outils de résilience aussi.
Voilà, vous livrez cette boîte à outils, puisque vous parlez des outils de résilience. Pour vous, ça a été l'écriture, la psychothérapie, le yoga et puis l'alcool. Vous le dites aussi honnêtement que vous en avez abusé.
Oui, alors sans faire sous Hélène de service, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai remarqué a posteriori que depuis 2015, j'avais augmenté vraiment mon augmentation d'alcool. Alors j'étais assez fière de pas prendre de médoc. J'étais genre ouais, on s'en sort sans médoc et tout, voilà. Mais non, en fait, mon médicament, il était en vente libre chez le caviste 18h, et il y avait quelque chose, voilà, une pente descendante là-dessus. Et c'est en interrogeant des psys qui m'ont dit, en fait, c'est assez normal. Pour les ricochets, pour les victimes indirectes, il y a souvent des troubles de comportement qu'ont pas forcément les victimes directes. En plus, ça dépend de chaque cas. Et le fait d'avoir comme anxiolytique les verres de vin, ça peut en être une. Donc, j'étais rassurée. Et puis, j'ai arrêté.
Ouais, vous êtes sobre. L'assassinat de Samuel Paty vous a plongé dans une dépression, Camille Emmanuel. Chaque nouvel attentat rouvre la plaie. Que ressentez-vous ce matin, alors que s'ouvrent les procès du 13 novembre?
Je pourrais vous répondre en 9 mois, je dirais, parce que ça va durer 9 mois. Et autant, je pense que j'ai appris, et nous avons appris à gérer les dates anniversaires, On voit en fait le tsunami arriver, on voit la vague et on est au bord de la plage et on se dit ok, est-ce que ça va nous engloutir, ou voilà, c'est quelque chose qu'émotionnellement, depuis 6 ans, on apprend à gérer. Autant la question du procès, c'est nouveau. Là, ça concerne un attentat qui, voilà, j'ai pas eu de proches de toucher, mais de fait, j'ai été bouleversée comme absolument tous les Français, et je pense que ça va remuer beaucoup de choses. Ouais.
Ricochet, voilà, un livre sincère, lucide, parfois drôle, un livre dans la vérité sur ce que vivent les proches des victimes. Les Ricochets, ça sort chez Grasset cette semaine. Merci Camille Emmanuel,
merci.
Une belle journée à vous.
France Inter.